Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment un privilège spécial pour moi d'être ici ce soir. Et je ne vais pas parler avec beaucoup de force. Je viens de rentrer d'un voyage vraiment béni dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest. Et nous avons eu vraiment de grandes réunions. Dieu nous a bénis d'une manière merveilleuse. Dans une réunion, nous avons eu entre 9 et 10 000 personnes. Et dans la dernière réunion, plus de 4 000 personnes. Et aussi, nous avons eu d'autres petites réunions. Et pour la première fois, j'ai foulé le 140e pays. Alors, je regarde en arrière à plusieurs années dans le ministère. Et aussi, dans cette nation, c'est un anniversaire depuis 1968. Quand je suis venu pour la première fois pour partager la parole de Dieu avec les frères dans ce pays. Ensuite, je regarde en arrière en 1958, quand le frère Branham m'a dit, tu retourneras en Allemagne avec ce message. C'est vraiment une année où il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent du passé. À Abidjan, j'ai rencontré des frères que j'avais connus en 1970-72. Et j'ai vu le fruit du ministère dans tous ces frères. Je viens et je m'en vais, mais vous, vous restez dans cette nation. Et votre ministère est même des fois plus important que mon ministère. Parce que aussi dans les églises, les assemblées locales, vous aussi, vous avez divers problèmes à résoudre. Et quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit de ne pas établir d'assemblée locale. Ce n'est pas mon ministère, mais je crois dans les assemblées locales. C'est pourquoi nous devons respecter les différents ministères. J'ai emmené avec moi une photo souvenir de l'Afrique du Sud. Quand le frère Sidney Jackson, un vieil ami du frère Branham, quand dans la ville de Pretoria, il s'est levé, peut-être devant 800 personnes, c'était aussi en 1970, quand nous avons eu ces nombreuses réunions dans toutes les grandes villes. Et alors là, à Pretoria, il s'est levé, il est venu à la plateforme. Et c'était un vieil ami du frère Branham, un ami de chasse. Chaque fois que le frère Branham allait en Afrique du Sud, il allait à la chasse. Et ensuite, le frère Sidney Jackson s'est levé devant le pupitre et a dit, « Frère Frank, tu es un apôtre. Je n'avais jamais entendu cela avant. » J'ai dit, je n'avais jamais entendu cela avant. Mais il a continué à dire, le frère Branham n'a pas pu rentrer comme il l'avait désiré de tout son cœur. Le frère Branham avait vu en vision les pays africains. Et il avait vu les mains noires étendues qui criaient « Viens nous aider !» Mais ensuite, il y avait eu des ennemis de frère Branham qui ne voulaient même pas qu'il vienne dans ce pays. Et dans son passeport, il avait ce timbre. Il ne lui est pas permis de participer aux réunions religieuses. Le frère Branham a été très, très désolé dans son cœur. Et alors là, il y avait une peau de zèbre sur laquelle le frère Branham a fait sa dernière prière en 1965. Et cette peau était dans la maison du frère Sidney Jackson. Et alors le frère Sidney Jackson a dit, frère Frank, le frère Branham n'a pas pu revenir, mais toi, tu as pu le faire avec ce même message. Et c'est ainsi qu'il m'a donné la peau de zèbre que j'ai emmenée avec moi en Allemagne. C'est là qu'il a dit, voilà où le frère Branham a eu sa dernière prière dans notre pays. Et maintenant, quand je me rappelle que j'ai reçu ces cinq cassettes, ces cinq bandes en 1958, et quand le frère Branham a dit, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Vous devez bien me comprendre en cette année 2008. Qu'il y a tant de précieux souvenirs qui me reviennent à l'esprit. Je ne pense pas que nous ayons un témoignage dans l'histoire d'un homme de Dieu qui a servi le Seigneur pendant un siècle. Et c'est ainsi que nous réalisons que nous sommes à la fin du temps de la grâce. Ayant la plus grande responsabilité qui soit jamais donnée sur la face de la terre. Pour partager la parole de Dieu, tout le conseil du salut, comme il a été révélé au frère Branham, comme il a été révélé à l'apôtre Paul, comme il a été révélé à Jean sur l'île de Patmos. Toutes les choses que Dieu a révélées aux prophètes et aux apôtres, Dieu les a révélées au frère Branham. Et maintenant, nous avons le privilège de partager les mêmes choses avec vous. Je vous l'ai déjà dit avant. Quand j'ai fait mon voyage sur l'île de Patmos, c'était avec un désir. C'était de lire les 22 chapitres de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. En marchant de long en large, pleurant et priant, parlant à Dieu. Voici l'endroit où tu as donné toute cette révélation à Jean. Il n'est plus ici, mais toi, tu es ici. Montre-moi simplement ce qui est écrit dans les 22 chapitres de l'Apocalypse. Vous savez, des fois, le Seigneur met un désir dans notre cœur de le connaître, de connaître sa parole, de connaître sa volonté. Et ensuite, nous allons dans les Écritures et nous voyons les voies du Seigneur, les voies de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et comment un ministère continuait lorsque l'autre se terminait. Et Dieu a toujours eu quelqu'un sur la terre pour rendre témoignage de ce qu'il devait dire. J'aimerais lire les trois premiers versets d'Apocalypse, chapitre 1. Et nous allons nous lever pendant que nous lisons ces trois versets. Chers frères, lis ces trois versets, Apocalypse 1, du verset 1 au verset 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Cher Seigneur, nous prions dans ton saint nom, le nom de Jésus-Christ. Et nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la louange. Je te remercie pour ce privilège d'être ensemble avec mes frères. Bénis tes serviteurs d'une manière puissante. Ouvre notre entendement afin de te connaître, toi et ta parole, à travers la révélation divine. Seigneur, je te prie pour l'unité directe de tous ces frères. Que chacun puisse être conduit par le même Saint-Esprit. Seigneur, sois avec nous. Dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, parfois, ces Écritures deviennent une bénédiction spéciale pour vous. Parce que c'est Dieu qui vous parle directement au cœur par ces Écritures. Ici, il nous est dit que Jean a reçu de la part d'un serviteur ce qu'il devait partager avec les autres serviteurs. Dieu a toujours utilisé un prophète, un messager. Et ce qui lui était révélé, il le devait partager avec les autres serviteurs de Dieu. Et comme Jean a donné ici le témoignage dans le verset 2, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Si vous lisez les 22 chapitres, Jean a même vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il a vu la nouvelle Jérusalem descendre. Il a vu le règne du millénium. Il a vu le repas de noces de l'agneau. Il a vu toutes ces choses. Et maintenant, nous voyons ces choses chapitre après chapitre. Le verset 3 a une signification spéciale pour moi. Parce que quand il m'a été demandé de lire 2 Timothée chapitre 4, directement comme un commandement du Tout-Puissant, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. C'était la première fois quand on m'avait posé la question concernant les sept tonnerres. Et quand j'avais lu les 5 premiers versets, et j'ai recommencé à les lire à partir du verset 1 et 2, etc. Et quand je suis arrivé au verset 2, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. J'ai posé ma Bible sur le bureau et j'ai levé les mains dans les airs. Et cette écriture d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, est venue dans mon cœur. Bénis celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Qui garde les choses qui y sont écrites. Et ensuite, c'est venu comme un message du Dieu Tout-Puissant. Ce que les sept tonnerres ont dit n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas prêcher dessus. Parce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et nous devons prêcher la parole de Dieu. Mais il y a des choses que les frères du message n'ont pas compris. Parce que le frère Branham a utilisé les paroles sept tonnerres plusieurs fois. Mais ce que les frères ne savent pas, c'est ceci. C'est que j'étais avec le frère Branham juste quelques semaines avant l'ouverture des sept sceaux. Et il m'avait personnellement dit qu'il devait déménager à Tucson en attendant l'ouverture des sept sceaux. Et c'est ainsi qu'il m'a expliqué quelques détails. Et ensuite, le 22 décembre 1962, il a reçu une vision concernant l'apparition de cette grande nuée surnaturelle. Et ensuite, alors qu'il était sur la montagne Sunset, quelque chose s'est produit. Il a entendu 7 coups de tonnerre. Et c'est seulement là qu'il a levé les yeux et qu'il a vu la nuée surnaturelle. Et les 7 anges qui formaient une pyramide. Et c'est ainsi que le frère Branham a parlé de 7 tonnerres. Mais ses pensées étaient en lien avec le 28 février 63, quand il a eu cette grande expérience sur la montagne Sunset. Et il a même frappé 7 fois sur le pupitre comme ça. Et il a dit que ces 7 coups de tonnerre étaient tellement puissants. Et il a essayé d'expliquer, il a essayé d'exprimer quelque chose. Et ensuite, il a fait le lien avec l'ouverture des 7 seaux, avec le nouveau nom de Dieu, en se référant toujours à cette expérience des 7 tonnerres. Mais juste maintenant, pour votre information, le 28 février, il n'y avait pas de voix. Mais dans Apocalypse, chapitre 10, il y a 7 voix. Et quand les 7 voix eurent parlé, alors Jean a entendu une voix du ciel. N'écris pas ce que les 7 tonnerres ont exprimé. Ne l'écris pas. Ainsi, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi devrais-je m'en préoccuper? S'il vous plaît, n'ayez rien à faire avec aucune interprétation de 7 tonnerres. Ceci, je le dis comme la parole du Seigneur. Les choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, Dieu les a gardées pour lui-même. Et laissez ces choses à Dieu de la manière dont c'est écrit. Ainsi, nous comprenons à partir des messages qui ont été prêchés par le frère Branham que ce n'est pas suffisant de dire le prophète a dit. Mais vous devez savoir ce qu'il pensait, ce qu'il avait devant lui lorsqu'il disait ce qu'il disait. C'est comme l'avait écrit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, en rapport avec les Écritures, qu'il y avait beaucoup de choses difficiles à comprendre. Et aussi dans les lettres de l'apôtre Paul, il y avait des choses qui étaient difficiles à comprendre. C'est ainsi qu'il y a des choses dans les messages du frère Branham qui ne sont pas facilement compréhensibles. Mais si l'Esprit de Dieu est sur vous, si vous n'avez pas vos propres intentions et votre propre programme, et si vous laissez chaque sermon dans le contexte dans lequel ils ont été prêchés, alors vous n'aurez aucun problème. Même avec ce que le Seigneur a dit lorsqu'il marchait sur la terre, quand le Seigneur fit cette déclaration, « Vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. » Matthieu chapitre 10. Qu'en est-il de cela? Comment le comprenez-vous? Et il a même dit, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu d'abord le Fils de l'homme venir dans la gloire. Vous pouvez prendre plusieurs déclarations. Par la grâce de Dieu, je sais où nous devons les placer. Ainsi, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne faites que lire les déclarations, sans comprendre où elles doivent être placées dans le juste contexte, alors vous pourrez dire que le Seigneur a dit quelque chose qui n'a pas été accompli. Ça a été accompli. Jean a vu le Seigneur comme fils de l'homme marchant au milieu des sept porte-lampes d'or. Peut-être encore quelque chose d'autre dont je me souviens. Quand le frère Branham a fait cette déclaration, l'agneau a laissé le trône de la grâce pour prendre le livre. Seulement avec cette déclaration, ils disent que le temps de la grâce est terminé. Parce que l'agneau a laissé le trône de la grâce. Mais l'agneau n'a pas déclaré que la grâce est terminée. Mais il n'a fait que d'ouvrir les sept sceaux. Mais nous n'attendons pas que vienne l'agneau, nous attendons que vienne l'époux. Mais même toutes ces écritures ont leur propre place dans un certain contexte. Et aussi, chers frères, vous devez comprendre ceci. C'est qu'il y a différents ministères, même en votre sein, parmi vous. Certains ont des ministères évangélistes. Certains ont des services d'enseignants. Mais n'allez jamais au-delà de ce que l'Écriture enseigne. Et n'ayez jamais le désir de connaître quelque chose. Et ensuite, nous devons comprendre ceci. Quand le frère Branham a déménagé de Jeffersonville en Arizona, il avait fait la promesse que chaque message pour l'Église de Dieu qu'il aurait, il retournerait d'abord dans sa propre assemblée pour les prêcher. Ceci, c'était quand il lui fut montré qu'il devait apporter la nourriture dans le tabernacle. Et en 1962, quatre fois, il a parlé en rapport avec l'emmagasinage de la nourriture. Ainsi, nous comprenons que les voies de Dieu, parfois, sont mystérieuses. Mais parce que le frère Branham avait fait cette déclaration, et c'était une déclaration forte, que chaque message que Dieu lui aurait donné pour l'Église, il l'apporterait d'abord à Jeffersonville. Ainsi, cela a été mon devoir de traduire en premier lieu toutes les prédications, tous les messages qui avaient été donnés à Jeffersonville. Parce que dans toutes les autres villes, il ne pouvait pas prêcher comme il pouvait le faire dans sa propre assemblée. Et quand j'avais terminé de traduire tous les sermons prêchés après l'ouverture des sceaux à Jeffersonville, alors j'ai traduit aussi tous les autres sermons. Sans égard à où et quand le frère Branham les avait prêchés dans les diverses villes. Ainsi, nous avons le plein message dans le vrai sens de la parole. Ceci dit, nous devons dire à nouveau comment les Écritures doivent être placées correctement. Et je dirai ceci chaque fois. Qu'à la première venue de Christ, plus de 100 Écritures ont été accomplies. Et je dirai aussi que dans le Nouveau Testament, nous avons 845 fois des références à l'Ancien Testament. Cela n'avait pas été donné aux prophètes de mettre toutes ces choses en place. Mais cela avait été donné aux apôtres de placer toutes ces prophéties et ces prédictions dans le plan du salut. Et j'espère que vous comprenez ceci correctement. Mais par exemple, quand le frère Branham a affirmé que le septième sceau est Apocalypse 10, parce qu'il avait été si imprégné de cette expérience quand il a entendu les sept tonnerres. Et qu'il lui avait été parlé là sur la montagne en rapport avec l'ouverture des sept sceaux. Et qu'il n'y avait qu'une seule écriture qui parlait de sept tonnerres, c'était Apocalypse chapitre 10. Ainsi, je sais pourquoi il avait fait cette déclaration. Mais alors, lorsque je viens dans les Écritures, je dois dire ce que les Écritures disent. Que le septième sceau, c'est dans Apocalypse 8. Vous pouvez le lire noir sur blanc. Pourquoi dis-je ceci? Ce n'est pas suffisant de dire le prophète a dit, le prophète a dit. Vous devez savoir pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Et encore une question. Quand le frère Branham a parlé sur les six premiers sceaux, il avait toujours lu les deux ou trois versets qui appartenaient au sceau. Mais quand il a lu à propos du septième sceau, il n'a lu que le premier verset en rapport avec la demi-heure de silence dans le ciel. Il n'avait jamais lu le verset 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je ne sais pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, je respecte tout ce que Dieu a permis qu'il arrive. Parce que ce n'est qu'en continuant de lire Apocalypse 8 que vous pourrez comprendre ce qui se passera dans le temps du septième sceau. Mais alors, vous allez dans une autre déclaration de frère Branham, que toutes les trompettes sonneront sous le sixième sceau. Ainsi, avec l'enseignement de la parole de Dieu, vous devez aller d'une déclaration à l'autre et d'une écriture à une autre. Et ensuite, sous la guide du Saint-Esprit, pour mettre les choses à la juste place et dans le juste lien, le juste contexte. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas besoin d'avoir de malentendu, d'incompréhension dans tous les sermons de frère Branham. Et et qu'il n'y a pas d'incompréhension dans toutes les paroles de Dieu, dans toute l'Écriture. Mais vous devez aller d'une écriture à une écriture. Et d'un endroit à un autre, lorsque le frère Branham parlait en rapport avec les 70 semaines de Daniel, faisant une déclaration très très forte, il avait même fait répéter à l'assemblée à voix haute, il y a une semaine qui reste. Et toute l'assemblée devait répéter à haute voix, il n'y a qu'une semaine qui reste, il reste 7 ans. Mais quand le frère Branham a parlé du ministère des 2 prophètes, il a dit qu'il ne restait que 3 ans et demi en ce qui concerne le ministère pour les Juifs. C'est ainsi que vous devez comprendre ce qu'il avait sous les yeux lorsqu'il faisait telle ou telle déclaration. Ce n'est pas suffisant de dire le prophète a dit ou le prophète a dit cela. Mais il faut connaître par la révélation du Saint-Esprit où les choses devraient être placées. Mais je crois que j'ai déjà partagé avec vous ceci dans les écrits. Mais la chose la plus importante pour nous tous est ceci. C'est que nous puissions être plus proches de Dieu. Que nous puissions avoir les vraies expériences que nous trouvons dans le livre des Actes. Parce que ce n'est qu'après l'effusion du Saint-Esprit que les 5 ministères seront manifestés. Ce n'est que dans la restauration que ceci peut avoir lieu. Nous pouvons parler, discuter en rapport avec les 5 ministères. Mais ils n'auront jamais lieu sans l'effusion du Saint-Esprit. Comme je l'ai aussi dit plusieurs fois, quand l'apôtre Pierre a prêché le premier sermon, imaginez un peu s'il aurait prêché sans la puissance de Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment que 3000 personnes pourraient être baptisées en un seul jour? Actes chapitre 2, verset 41. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas l'apôtre Pierre. C'était la présence surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. À travers l'effusion du Saint-Esprit. Et l'apôtre prêchait. Mais le Saint-Esprit a mis la parole dans les cœurs. Et ensuite fut prise la décision pour Christ. Je m'attends à la même chose dans notre temps. Pour moi, la restauration doit être une réalité. Ça ne doit pas seulement être un enseignement. L'enseignement est nécessaire pour nous faire connaître la promesse, la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Et ceci, nous le répétons toujours. D'abord, Dieu fait une promesse. Et ce n'est seulement que quand il y a une promesse que nous pouvons avoir la foi. Mais il y a aussi une promesse spéciale qui est appelée la promesse du Père. Luc chapitre 24, Acte chapitre 1er. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Jusqu'à ce que vous receviez la puissance, le pouvoir pour le service. Le frère Branham ne pouvait rien accomplir. C'était la présence surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Si vous avez vu le film, le frère Branham avait dit « Je suis aussi impuissant que chacun d'entre vous. » Et ensuite, il avait dit « J'attends l'ange du Seigneur. » Et tout à coup, il disait « Maintenant, il est ici sur la plateforme. » Et c'est après que les choses se produisaient. Chers frères, ce dont nous avons besoin, c'est de la présence directe du Seigneur. Qu'il soit avec nous lorsque nous partageons la Sainte Parole. Et ceci doit se passer dans la restauration. Et alors là, toutes nos questions auront une réponse. Et alors là, il n'y aura plus de discussion. Il y aura la réponse. Et je m'attends à la réponse. Ceci est un temps de préparation. Ceci est un temps de sortir. Et Dieu vous utilise dans les diverses villes, dans votre pays, pour partager le dernier message avec le peuple de Dieu. Et tous ceux qui ont des oreilles peuvent écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, ce n'est pas une interprétation spéciale ou un enseignement spécial, mais nous partageons tout le plan du salut. Tous les enseignements de l'Assemblée du Nouveau Testament. Et vous, chers frères, vous devriez lire spécialement ce que Paul a écrit à Timothée. C'est vraiment important de lire toutes les lettres qu'il a écrites à Timothée. Il a aussi appelé Timothée un serviteur de Christ, comme lui-même se définissait comme serviteur de Christ. Reconnaissant qu'ils avaient ensemble part au même ministère. Ne pensez pas, le frère Branham avait un grand ministère, et ensuite que le frère Frank a un ministère. Et si vous pensez, mais qu'en est-il de moi? Mes bien-aimés frères, votre ministère est vraiment aussi important que le ministère de n'importe quel autre homme de Dieu. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux être dans votre ville? Non, je ne peux pas. Dieu vous a placé, vous, là. Dieu vous a donné à vous la responsabilité dans les assemblées locales, dans les diverses villes. Ainsi, cela fait partie du même ministère. Quand le Seigneur a dit que je devais aller de ville en ville, ceci, le Seigneur ne vous l'a jamais dit à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les autres pays. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les autres villes. Restez là où vous êtes. Parce que c'est là où le Seigneur vous a ordonné de rester. Moi, je dois aller. Parce que cela fait partie du grand mandat. Mais vous êtes aussi dans ce même ministère, dans la place, dans le règne de Dieu, dans l'assemblée, et votre service est aussi important que le mien ou de celui de quiconque. C'est pourquoi, pour être sincère, votre service est aussi plus important. Parce que toutes les assemblées locales sont bénies à travers votre ministère. Moi, je vais de ville en ville, de pays en pays. Je viens et je m'en vais. Mais vous, vous restez dans la même assemblée locale. Et vous grandissez spirituellement dans cette assemblée locale. Et comme je suis en train d'écrire en rapport avec Moïse et Aaron, comment Aaron avait le pectoral sur son cœur, et aussi sur les épaules, 6 tribus d'un côté et 6 tribus de l'autre. Et quand il est entré dans la présence de Dieu dans le temple, il avait les 12 tribus sur les épaules et sur son cœur. Vous devez avoir le peuple de Dieu sur votre cœur. L'Église rachetée de Christ, le sang précieux a été versé pour eux. Vous devez toujours être conscient de cette précieuse pensée. Ce n'est pas votre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Vous n'avez pas payé le prix, il a payé le prix. Il a versé le sang pour nous racheter, pour nous racheter. Et c'est alors que vous aurez une bonne attitude pour partager la nourriture spirituelle avec le peuple de Dieu. Et alors, vous n'aurez pas un bâton avec vous pour frapper les brebis. Non, le bâton, c'est seulement pour le loup. Pas pour les brebis. Non, non. Le pasteur va en avant, devant le troupeau. Il va devant le troupeau. Mais si le loup vient, alors il ne va pas marcher comme ça. Il va utiliser le bâton. Ainsi, ayez la même attitude. Si Dieu vous a placé dans une assemblée locale, vous devez avoir un cœur de berger et l'assemblée le saura. Ils vont le sentir parce que vous les comprenez et ils vous comprennent. Ceci est très, très important pour un service local, d'être accepté par une assemblée locale. Ainsi, je sais que Dieu est avec vous. Il vous a conduit si loin selon sa parole. Et je ne dis pas ceci parce que je suis ici. Mais Dieu a béni votre pays d'une manière exceptionnelle. Je me souviens de ma première visite dans l'église baptiste à Timișoara. Il y a beaucoup, beaucoup d'années de cela. Et c'est de là que j'ai rencontré d'autres frères. Et j'ai observé ce que le Seigneur avait fait. Mais Il ne m'a pas utilisé moi, mais vous, mes frères. Tous les croyants de cette nation, ils ne sont pas exactement le fruit de mon ministère, de votre ministère. Imaginez seulement un instant que je vienne, que je prêche, que je m'en aille, et que Dieu ne vous utilise pas. Qu'est-ce qu'il en serait? Rien ne se passera. Ainsi, je veux que vous compreniez aujourd'hui l'importance de votre ministère et aussi de travailler ensemble dans l'unité. Ceci est aussi très important. L'unité, ça signifie que vous n'apporterez jamais une division dans une assemblée locale. Juste avant que je fasse ce voyage vers les quatre pays d'Afrique de l'Ouest, une sœur de Johannesburg m'a appelé. Elle est l'épouse d'un médecin. Et elle pleurait de l'autre côté du téléphone. Et sa demande était celle-ci. Frère Franck, jusqu'à quand nous, en tant qu'assemblée, nous devons souffrir à cause des problèmes qu'ont ces prédicateurs? Est-ce que vous avez entendu? Jusqu'à quand nous, Église, en tant qu'assemblée locale, nous allons encore souffrir à cause des problèmes qu'ont les prédicateurs l'un envers l'autre? Et pour être honnête, il y a encore d'autres prédicateurs qui venaient d'un autre pays et qui ont commencé leur propre assemblée en expliquant simplement « Oh, ceci n'est pas correct et ceci n'est pas juste. » Et il y en a même un qui a été jusqu'à dire que Dieu l'a envoyé pour mettre en ordre les assemblées locales. Il devrait avant tout mettre sa propre église locale en ordre. Quand vous allez dans une autre assemblée, adaptez-vous simplement dans le modèle de cette assemblée. Ne venez jamais saper ou faire du mal à un ministère d'un autre frère, de son autre assemblée locale ou d'un autre frère. Laissez simplement, soyez simplement utilisés par Dieu de la juste manière. Une fois, j'ai visité une assemblée bien connue du frère Branham. Et j'ai prêché dans les services du matin et du soir. Et à mon étonnement, et c'est ce que j'ai écrit aux frères d'Afrique du Sud. À mon grand étonnement, la Sainte Cène était servie d'une manière totalement anti-scripturaire. Il y avait un plateau avec 36 tout petits verres. Et il y avait un plateau avec beaucoup de petits morceaux de pain. Oh, je n'ai fait que de pleurer. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me suis senti. Sachant que le frère Branham avait aussi prêché dans cette église. Et ils n'ont pas changé. Je ne pouvais pas le comprendre. Mais je n'ai jamais dit une seule parole. Jusqu'à ce jour-ci. Parce que je ne suis pas responsable des églises locales. Votre responsabilité, c'est pour votre assemblée locale. Mais ceci, je dois le dire pour la gloire de Dieu. Depuis la toute première fois où j'ai servi à la Sainte Cène du Seigneur, c'était seulement un pain et une coupe. Ce n'était pas la manière américaine, mais c'était la manière de Dieu. Mais je dis ceci simplement pour vous faire savoir que vous ne devez pas aller dans une autre assemblée locale pour mettre les choses en ordre. Mettez les choses en ordre dans votre propre assemblée locale. Et ensuite, dans toutes les autres assemblées locales, tout sera en ordre. Mais aussi, nous respectons le ministère des autres frères. J'espère que vous comprenez ceci. Ici, nous sommes des frères, nous parlons cœur à cœur. Ne soyez jamais, jamais responsable d'une division. Peut-être on commence à dire que ce que ce frère enseigne n'est pas exactement juste. Est-ce que tu enseignes exactement correctement? Chaque fois? Dans chaque sermon? Alors, s'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que comme le frère Branham l'a dit, seulement l'amour parfait entrera là-haut, là-bas. Et l'amour supporte toutes choses. Et l'amour fraternel doit être avec nous. Alors notre vie sera bénie, notre ministère sera béni. Et le peuple de Dieu sera béni. Ainsi, résumons ce que nous essayons de dire aujourd'hui. Nous croyons que le frère Branham était le prophète promis. Maintenant, vous pourriez dire, comment le savez-vous? Quand Jean-Baptiste devait commencer son ministère, le Seigneur lui a parlé. Celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit et demeurer, c'est celui-là. Et ensuite, Jean a dit, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ainsi, les vrais hommes de Dieu ont des expériences spéciales du surnaturel. Peut-être que demain, je le mentionnerai à nouveau. Mais le Nouveau Testament a commencé avec les choses surnaturelles qui avaient eu lieu. Et le Nouveau Testament terminera de la même manière. Ainsi, quand il a été dit au frère Branham que son message précéderait la seconde venue de Christ, nous le croyons. Tout d'abord parce que notre Seigneur a promis qu'il reviendrait. Et deuxièmement, il a aussi promis que viendrait le prophète Élie avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Ainsi, nous comprenons des Écritures que nous sommes à la fin du temps de la grâce, à la fin du jour du salut. Et Dieu a gardé sa parole et a envoyé son prophète. Frère, je vous dis ceci comme un témoin oculaire. Aucun prophète n'a jamais eu un tel ministère. Cela était une répétition du ministère de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et ceci, c'est ce que l'ange avait expliqué au frère Branham. Parfois, les gens se moquent en rapport avec l'ange qui a parlé au frère Branham. Ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Regardez dans la Bible. Regardez ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Comment le prophète a vu le Seigneur de la gloire sur son trône? Comment ils ont entendu la voix du Tout-Puissant? Et si nous allons, comme nous l'avons dit, dans le Nouveau Testament, l'ange Gabriel est venu chez Zacharie. L'ange est venu chez Marie. L'ange est venu à Daniel dans l'Ancien Testament, lui montrant les choses qui devaient se produire. Ainsi, Dieu opère d'une manière merveilleuse pour accomplir son conseil. Et comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1er, Dieu a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, au pluriel, et ensuite il a utilisé un seul serviteur au singulier, Jean, et même dans Apocalypse 22, le Seigneur Dieu a envoyé son ange pour montrer toutes ces choses. C'est la même chose est arrivée au frère Branham. Cela signifie beaucoup pour moi. Parce que nous sommes toujours dans les jours de la Bible. Et après 2000 ans, le même Dieu a fait les mêmes choses qui était arrivé quand notre Seigneur marchait sur la terre. Et si vous écoutez les sermons de frère Branham, spécialement la prière pour les malades, presque à chaque fois lorsque la prière pour les malades commençait, le frère Branham se référait à Jean chapitre 1er, Jean chapitre 4, Jean chapitre 5, il allait dans les différents versets où il était montré le ministère du Fils de l'homme. Jean chapitre 5, 19, le Fils ne peut rien faire qu'il ne le voit faire au Père. Ainsi, l'ange a expliqué au frère Branham que dans le temps où notre Seigneur Jésus marchait sur la terre, ce ministère fut manifesté aux Juifs et aux Samaritains, mais pas aux gentils, pas aux nations, parce que nous marchions encore dans nos propres voies. Et le Seigneur avait dit, n'allez pas chez les gens des nations, parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, notre temps est ici, et le même ministère. Le frère Branham voyait une vision, et dans la vision, il voyait la personne. Et il lui était révélé qui était la personne et quel était son problème. C'était à 100% le même ministère que celui de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et même de cette manière, c'est si important de comprendre ce que vous lisez. Par exemple, quand vous lisez Jean, chapitre 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Imaginez un seul instant, que quelqu'un vienne remplacer les mots et dire le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Je devrais fermer ma Bible et m'en aller. Parce que ce serait totalement faux. Ce serait un acte criminel de changer la parole Fils de l'homme avec Fils de Dieu. Si vous le faites, vous chercheriez à dire qu'il était déjà Fils de Dieu dans le ciel. Alors, qu'est-ce que cela signifie même ces trois titres? Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David, Fils d'Abraham. Quatre titres de Dieu, pas trois. Quatre. Matthieu, chapitre 1er, verset 1. Fils de David, fils d'Abraham. Dans le premier verset du premier évangile. Mais pourquoi fils d'Abraham? Pourquoi fils de David? Pourquoi fils de Dieu? Pourquoi? Vous devez aller à la parole. Parce que dans la prophétie, toutes ces choses étaient préfigurées. En Abraham fut donnée la promesse. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et ensuite, vous allez à Galates, chapitre 3, spécialement verset 14, le verset 18. Christ, la semence d'Abraham, à travers qui toutes les nations seraient sauvées. Et ensuite, vous lisez que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas entrer dans tous ces détails. Toutes les Écritures ont leur place. Chaque description a sa place. En tant que fils de Dieu, il est mort. Parce que nous devions être sauvés, rachetés et ramenés en tant que fils de Dieu dans notre position originale. En tant que fils de David, il est roi. Et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Ainsi, chaque description de notre Seigneur a sa place. Et ça ne peut jamais être changé. Cela doit être laissé tel qu'il est. Peut-être parce que nous connaissons Dieu personnellement. Je crois que nous pouvons dire ceci avec la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous pouvons regarder à l'éternité et ensuite penser à certaines Écritures, spécialement Jean chapitre 1er, verset 1er, verset 14. Ensuite, nous pouvons aller dans diverses Écritures du Nouveau Testament, dans 1 Timothée 1, 17, nous pouvons continuer à 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Il vit dans une lumière inaccessible. Et ensuite, vous lisez, au commencement était la parole. Ainsi le Dieu invisible, qui habitait dans sa plénitude éternelle de lumière, esprit et vie, que personne n'avait jamais vu, il est sorti de l'éternité et il est entré dans le temps. Et cela a été le commencement. L'éternité n'a pas un commencement. L'éternité n'a jamais commencé. parce qu'elle a toujours existé. Ainsi, au commencement était la parole. Celui qui a appelé toutes les choses à l'existence. Déjà en tant que fils de l'homme, marchant dans le jardin d'Éden. Visitant même Abraham en Genèse 18, s'asseyant et mangeant un beefsteak. Si, lisez-le. En premier lieu, dans Genèse 18, le Seigneur lui-même met dans un corps comme tous les autres hommes. Et même les deux anges étaient venus avec lui. Ils se sont assis et ils ont mangé la viande. Parce qu'Abraham a dit à ses serviteurs, prenez le meilleur veau que vous ayez et préparez-le. Et il a même dit à Sarah, prépare le meilleur gâteau que tu puisses faire. Ainsi, après le beefsteak, ils nous ont mangé un beau gâteau, juste comme un homme, à travers tout l'Ancien Testament. Pas fils de Dieu, fils de l'homme, marchant, parlant, se révélant lui-même. Ainsi, si vous allez dans le Nouveau Testament, le même « Je suis » qui a parlé à Moïse, qui a visité Abraham, qui a parlé aux prophètes, le même a laissé la gloire. Et il est venu dans un corps de chair. C'est pourquoi l'Écriture dit, la parole fut faite chair. Ce n'est pas le Fils qui fut fait Fils, mais la parole fut faite chair. Je ne veux pas prêcher maintenant. Je vais prêcher demain. Mais voici le secret. Cela doit vous être révélé. Jésus-Christ est la vraie révélation du Dieu Tout-Puissant. Mais il devait aussi être un homme à 100%. Dans son corps terrestre, il était comme tout autre homme. Pourquoi? Parce qu'il devait devenir comme nous sommes, de façon qu'il puisse verser son sang. Et voici le mystère. Le sang sacré qui a été versé avait la vie de Dieu en lui. Et la même vie sacrée vient sur ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Pourquoi même le terme « le sang de l'agneau » si vous allez dans Genèse, après la chute, il s'est passé quelque chose. Dieu a dû tuer deux agneaux pour revêtir Adam et Ève dans ses peaux. Cela parlait déjà de l'agneau de Dieu qui devait venir pour verser son sang. Et le premier sacrifice du premier homme de Dieu fut un agneau. Abel a sacrifié un agneau. Cain a apporté les fruits du champ. Il n'avait aucune révélation. Ainsi, depuis le commencement, tout au long de l'Ancien Testament, le plan du salut de Dieu s'est fait connaître. jusqu'à ce qu'il devienne une réalité dans le cours du Nouveau Testament. Bien-aimés, nous pouvons continuer à parler de ces merveilleuses choses, mais simplement je vis de ces choses, c'est ma vie. Et quand vous connaissez Dieu personnellement, et que vous connaissez aussi la différence entre Dieu et le Seigneur, est-ce que vous savez où c'est écrit? Je ne sais pas si je dois entrer dans ces enseignements, mais c'est merveilleux. Mais si vous allez dans Jean chapitre 12, Dieu a parlé, et sa voix fut comme un tonnerre. Et les gens pensaient que c'était un tonnerre, mais c'était la voix de Dieu qui disait, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai à nouveau. Mais quand vous allez dans Actes chapitre 9, c'était le Seigneur qui avait parlé à Saul sur la route de Damas. Mais je ne dois pas vous inquiéter avec ces choses. Mais pour moi, c'est absolument important de laisser chaque parole, chaque terme, de la manière dont c'est écrit. Si c'est écrit « Dieu », laissez « Dieu ». Si c'est écrit « Seigneur », laissez « Seigneur ». Si c'est écrit « Seigneur Dieu », laissez « Seigneur Dieu ». Laissez simplement toutes les choses comme elles sont. Parce que les choses doivent s'adapter et se trouver dans un contexte bien précis. Mes frères, je ne veux pas être personnel. Mais combien d'entre vous sentent qu'ils ont un ministère d'enseignant? Est-ce que vous sentez d'avoir un ministère d'enseignement? Combien sentent d'avoir un ministère d'évangéliste? Avez-vous la certitude dans votre cœur? Ceci est le ministère que Dieu m'a appelé à exercer? Puis à la fin, ce n'est pas toi, mais l'Assemblée qui décide quel type de ministère tu as. Ce n'est pas ma prétention ou votre prétention. Mais l'Assemblée vient savoir quel type de ministère Dieu t'a donné. Mais lorsqu'on arrive au ministère d'enseignant, je crois que nous avons fait ce qu'il fallait faire avec le message de l'heure. De mettre les choses dans leur juste place. Et nous avons montré les liens de la parole de Dieu entre les choses. Même lorsqu'on en arrive au sujet du retour de Christ, je suis en train d'écrire en rapport avec les 50 années que je viens de passer. Et pour moi, c'est toute une vie. Toute une vie à servir le Seigneur de tout mon cœur. Et aujourd'hui, j'étais en train de penser, dans ces 50 années, je n'ai jamais raté une seule réunion. Je n'ai jamais raté une réunion parce que j'aurais eu un refroidissement ou parce que j'aurais eu la grippe. Je n'ai jamais raté une seule réunion en 50 ans. Je n'ai jamais raté une seule réunion, pas une seule fois. Et vous pouvez imaginer combien de fois j'ai prêché dans des pays où la température était à moins 20 degrés. Et avec toute la transpiration, et ensuite de devoir aller dans le gel de la glace, ou bien dans ces pays chauds d'Asie et d'Afrique. Et quand vous allez dans le taxi, et l'air conditionné est comme du gel, et par la grâce de Dieu, il n'y a eu qu'un seul mois dans toutes ces années. C'était en janvier 1981, quand je me trouvais dans un hôpital avec la malaria tropicale. Cela a été le seul dimanche dans la première semaine du mois dans lequel je n'ai pas pu me présenter à la réunion à Krefeld. Vous savez que depuis le commencement, nous avons eu des réunions spéciales le premier week-end à Krefeld. Et c'était seulement quand je me trouvais dans cet hôpital sans pouvoir bouger et étant proche de la mort qu'il me fut impossible d'aller à la réunion. Mais je n'ai jamais manqué la réunion à Zurich. Juste avant le dernier dimanche de janvier 1981. Je parlais avec le frère Rousse et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir avec moi à Zurich? Et il a dit, certainement. Alors j'ai demandé au médecin de me laisser partir. Ainsi, j'ai quitté l'hôpital et nous deux, nous sommes allés prendre l'avion pour Zurich. Je dis ceci pour la gloire de Dieu. Tout le temps que j'ai eu, je l'ai donné au Seigneur. Quand je regarde en arrière, ce n'est pas seulement les journées, mais aussi toutes les nuits, en train de passer mon temps à traduire. Seulement pour servir le Seigneur et servir son peuple. Plus de temps que ça, je n'ai pas eu. Tout le temps que j'ai eu, je l'ai donné au Seigneur. Ainsi, je regarde à ces 50 années bénies. Si j'avais encore un autre temps, je le mentionnerais. Comme je suis aussi en train d'écrire une lettre circulaire, les expériences signifient beaucoup pour vous, mais pas pour quelqu'un d'autre. Vous pourriez avoir les plus grandes expériences avec le Seigneur. Mais de toute façon, ça ne signifie rien pour quelqu'un d'autre. Mais pour vous, ça signifie beaucoup. Par exemple, si je vous disais qu'en janvier 1981, je fus pris hors de mon corps, ça ne signifierait rien pour vous. Mais vous ne pourriez jamais imaginer ce que cela signifie pour moi. Quand ils m'ont repoussé dans cette salle où les gens doivent mourir, et quand vous voyez un rideau à votre gauche et un rideau à votre droite. Et que vous devenez de plus en plus faible et que vous savez que le moment de partir arrive. Et j'ai seulement dit mes dernières paroles. Cher Seigneur, je viens à toi maintenant. Mais s'il te plaît, fais-moi connaître comment je me tiens dans ta présence. Et l'instant d'après, je fus pris hors de mon corps, sous un ciel bleu. Et quand j'ai regardé vers la droite, j'ai vu une multitude habillée de blanc, que personne ne pouvait compter. Et moi, j'étais dans la première file. Et dans cette dimension, vous pouvez regarder à l'éternité, il n'y avait pas de fin. Et tout le monde était jeune, pas plus de 17 ou 18 ans. Et je savais que c'était l'enlèvement. Et nous étions en train de monter, de monter. Vous connaissez mon témoignage. Quand j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre, quand j'ai vu la gloire de Dieu, et vous pouvez imaginer ma déception quand j'ai dû retourner dans mon corps. J'ai pleuré amèrement. Je ne faisais que pleurer et pleurer. Maintenant, je me souviens. Les larmes étaient chaudes à me brûler la peau. Parce que j'avais pensé, maintenant nous sommes avec le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Mais après je devais retourner dans ce corps. J'étais si déçu. Mais mon temps n'était pas encore venu de m'en aller. C'était seulement une très grande expérience que le Seigneur du ciel m'a donnée. Et si je regarde en arrière, aux nombreuses années qu'il m'a données, et aux nombreuses personnes qui ont entendu le dernier message, qui sont parties dans le règne de Dieu. Mais maintenant le temps est proche. Maintenant le temps est vraiment proche. Le retour de notre Seigneur est vraiment très proche. Ainsi, chers frères, que vous puissiez être fortifiés dans le Seigneur, que vous puissiez être encouragés dans son nom. Ne regardez pas aux choses visibles, aux problèmes. Si je devais regarder aux problèmes, je serais très triste. Mais tous ensemble, nous regardons au Seigneur. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais ceci. Le plus grand privilège que Dieu pouvait nous donner est ceci. C'est de connaître sa parole promise pour ce jour, de croire sa parole promise pour aujourd'hui, d'avoir la sainte parole promise révélée par le Saint-Esprit. Je vous demande, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Dieu a fait tout ce qui était nécessaire, envoyant son serviteur et prophète, nous restaurant dans la parole de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans une grande attente de voir la gloire de Dieu manifestée, de voir les jours apostoliques, de voir les jours de la Bible, d'expérimenter la puissance de Dieu. Moi, je le crois. Et le frère Branham a dit que ce serait une œuvre brève. J'ai trouvé des affirmations très merveilleuses où il a dit que ce serait peut-être que quelques semaines. Mais Dieu fera quelque chose de très grand. Et simplement, nous allons en avant avec le Seigneur. S'il vous plaît, en conclusion, je dirais ceci à nouveau. Ne parlez jamais mal d'un frère. Ne laissez jamais la jalousie s'élever dans votre cœur. Si Dieu bénit un frère, ne soyez pas jaloux, mais réjouissez-vous. C'est seulement quand vous pouvez vous réjouir quand Dieu utilise un autre. Alors viendra votre temps pour vous, dans lequel Dieu vous utilisera aussi. Ainsi, gardez l'unité de la foi. Aimez-vous les uns les autres. Et estimez-vous les uns les autres plus haut que vous-même. Et priez les uns pour les autres. Et Dieu vous bénira, vous utilisant puissamment. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Combien désire reconsacrer sa vie et son ministère au Seigneur? Combien désire trouver sa propre place avec le Seigneur et dans le ministère? Combien attendent que le Seigneur confirme sa parole? Que maintenant nous puissions croire et recevoir ensemble. Grand Dieu au ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, je te présente tous ces frères dans le ministère, à toi, à ton service, au service du Dieu Tout-Puissant, dans l'Église du Dieu vivant. Bénis leur vie, bénis leur ministère, sois avec eux d'une manière spéciale. Nous remercions Dieu. Nous disons Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.
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 Alléluia.